Elle reviendra.
Alors, vous prendrez, je vous donnerai le verset que nous allons étudier pour commencer. Vous prendrez le chapitre 1 de Devarim. Le verset 7, je pense, au milieu, je vérifie. Oui, c'est le verset 5. Vous allez prendre le verset, et puis je vous demande 2 minutes, je cherche une référence dans un autre chapitre. Voilà. Bien. Alors écoutez, nous allons aborder un livre qui est d'abord équivalent aux autres livres du Pentateuque. Comme vous savez, je vais vous expliquer très rapidement l'expression en hébreu. Nous disons Chamisha Chumshe Torah. Chamisha Chumshe Torah. Bon, Chamisha, c'est simple, ça veut dire 5. Chumshe, c'est le pluriel à l'état construit de Chumash. Un Chumash, c'est un cinquième. Chumash. Chumesh, Chumash. Un cinquième Torah, de la Torah. Il y a 5 parties dans la Torah. Chacune de ces parties s'appelle un Chumash. Et donc l'ensemble du Pentateuque. En français, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire, je pense, les 5 livres. J'ai oublié, c'est ça?
Oui.
Je ne sais pas comment ça, ça se branche, mais enfin, ça doit être ça. Chamisha, Chumshe, Torah. Mais, malgré tout, il y a équivalence d'importance, bien entendu, du point de vue de la révélation des 5 livres, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bemidbar. Et très souvent, on entend dire Bamidbar, c'est une erreur, traditionnellement. Il faut prendre le mot tel qu'il est dans le verset. Dans le verset, c'est Bemidbar Sinai. C'est à l'état construit. Donc il faut dire Bemidbar, pas Bamidbar. C'est des petites nuances qui montrent si on est familier aux sources traditionnelles ou pas. Alors méfiez-vous de ça, ça fait mauvais goût un peu. C'est clair ce que je dis là. Okay, il faut dire Bemidbar et Devarim. Bon, il y a dans la Kabbalah un enseignement que je vais vraiment citer très très vite en passant, qui relie les 5 mots qui commencent chacun des livres. Je vais vous le dire en hébreu, ceux qui comprennent, sinon ça va nous prendre trop de temps. Bereshit Shemot, Vaikra Bemidbar, Dvarim. Les paroles ont été prononcées dès le début du fait que les noms ont été invoqués dans le désert. Bon, on n'a rien compris, ça fait, c'est pas grave. Mais Bereshit Shemot, Vaikra Bemidbar, Dvarim. Et malgré tout, on a donné la comparaison avec la main, qui est un symbole. J'aime pas du tout ce mot de symbole, comme vous le savez, mais on est obligé de l'employer en français. Je préférais trouver un mot français qui traduise le mot hébreu de semel. Semel. Ne me dites pas symbole.
Hein?
Signification. Voilà. Un signe de signification, pas un signe haute, mais semel. Et symbole, vous savez ce que ça veut dire en grec. Le symbole, c'était quand on contractait une alliance. On prenait un objet qu'on cassait en deux. Et chacun des deux contractants de l'alliance prenait la moitié. Et quand on se rencontrait, on identifiait cette alliance en faisant coïncider les 2 morceaux. Symbole en grec, symbole. Bon, bref. Mais ça a pris le sens de ce qui se substitue à la réalité, le symbole. Donc c'est un mot grec qui n'est pas du tout hébreu. Alors que semel, la signification de la réalité, c'est tout à fait autre chose. Alors je referme cette parenthèse. Pourquoi je vous ai parlé de symbole?
Pour la main.
Oui. Vous avez tout de suite deviné, il y a dans la main 4 doigts et le 5e, Yad. Vous savez d'ailleurs que, je vous cite un enseignement important du Talmud, on n'a pas le droit, lorsqu'on lit le Sefer Torah, de suivre avec la main nue. Vous savez cela, et on prend un yad, on prend une main. Non, c'est une main. Le doigt montre, mais c'est une main, c'est un yad. Je vais vous dire pourquoi c'est yad. Et on suit avec. Et la première référence se trouve dans la Gemara qui dit « Celui qui lit un Sefer Torah nu sera enterré nu ». Ça, c'est les formules choc de la Gemara. Alors, tout de suite, la Gemara elle-même réagit en disant Arum, Salkadartar, nu, tu crois vraiment, nu, mamash, puisqu'on le met dans un linceul, donc il n'est pas nu. Alors, elle répond Arum, mea mitzvot, nu, dépouillé de cette mitzvah d'avoir lu. Alors, le sens vous est très immédiatement accessible. On ne peut pas s'approcher la main nue de ce texte. Il faut passer par le biais de la lecture traditionnelle qui est représentée par ce yad avec lequel on lit. Est-ce que c'est clair ou léger, j'explique ? C'est-à-dire, lorsqu'on rencontre le livre, il faut savoir, et on le sait, que ce livre est, j'allais dire, illisible. C'est peut-être pas le mot exact. C'est un livre scellé, hermétique. C'est un livre fermé. C'est l'expression en hébreu. « Asefer hatum satum ». Effectivement, parce que il y a deux méthodes de l'approche du texte. En français, on appelle le texte, je crois que nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps, en français, on appelle le texte de la Torah l'écriture, les écritures. Et c'est une toute autre mentalité que la tradition hébraïque. La tradition hébraïque appelle le texte la lecture, mikra. Et de ce point de vue-là, les musulmans sont beaucoup plus proches de nous. Ils appellent leur texte le Coran, ça veut dire ce qui est lu. Dans le grec, un mot français qui vient du grec, c'est le mot légende. Je vous fais une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi il ne faut jamais traduire Agada par légende. Parce que légende, c'est un mot négatif. Ça veut dire un conte de fées. On se demande pourquoi des contes de fées de ce genre ont tellement impressionné la culture de l'humanité depuis des siècles et des millénaires. On en parle comme si c'était des légendes, c'est-à-dire des inventions d'imaginaire, okay, des mythes. Et bon, mythes, encore une autre catégorie. Mais vous voyez, quand on emploie ce terme de légende en français pour traduire Agada, on ne se rend pas compte qu'on dit une énormité. Mais je voudrais vous expliquer pourquoi c'est arrivé, cela. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît ? Et ça vient d'un mot grec, le mot légende, et qui veut dire... Non, c'est-à-dire d'un mot latin, qui est à la forme de l'accusatif grec, et qui veut dire « donner pour être lu », legendum, ce qui est donné pour être lu. Et ça traduit « mikra », c'est la lecture. C'est-à-dire que ce sont des textes qu'il faut réciter. On ne les parle pas, on les récite. Et vous avez dû remarquer que, effectivement, la Torah se récite. C'est clair, je pense. Et donc, Agada en hébreu, ça veut dire l'explication, ce qu'il faut savoir pour pouvoir lire. Et donc, d'où le sens de récit, aussi, du terme de Agada. Eh bien, vous voyez à quel point le mot de légende dans l'ancien français avait un sens exact. Une légende, c'était un texte qui raconte un enseignement, mais qu'on se récite, qu'on se met en mémoire, et puis qu'on étudie pour comprendre. Et l'étude avait pour objet de retrouver la mémoire à partir du temps où on se trouve jusqu'au temps où cette parole a été dite. Et c'est l'étude qui a pour objet de transformer la mémoire en savoir. Bon, je referme la parenthèse, je pense que c'est clair. Le limud, l'étude, nous permet d'acquérir un fond de connaissances que nous avons dans la mémoire, mais pas compris, mais mémorisé, quand il est récité. Et alors, on prend ce récit et on l'étudie, et l'étude, l'imoune, transforme la mémoire en savoir. Et une fois que c'est transformé en savoir, c'est intégré de façon éternelle, enfin irréversible, à l'esprit, à la connaissance. Bon, alors c'est ça qu'il y a derrière le mot de l'ancien français légende. Avec le temps, c'est devenu conte infantile.
Pardon, on dit légende d'une carte. La
légende. Ah, ça c'est encore très récent. Oui, c'est ce qui nous aide à lire la carte, la légende. D'ailleurs, j'ai une carte de géographie, par exemple. Qu'est-ce que c'est, légende ? Des consignes pour pouvoir lire. Exactement. Oui, c'est très bien, ça se relie à ce signe. C'est une mentalité des modernes qui a complètement changé le sens de ces catégories. Alors, je reviens en tout cas sur cette définition que le texte n'est pas appelé l'écriture, mais la lecture. Et encore une fois, l'objet de la lecture, c'est la compréhension. Je vais vous dire quelle est la différence de méthode. J'ai entendu parler de ce mot français, l'exégèse. C'est un mot qu'on aime bien, avec coquetterie académique, académie universitaire, qu'elle employée pour dire le commentaire du texte, on dit l'exégèse. Fais bien attention, c'est tout le contraire que le commentaire traditionnel. Le commentaire traditionnel a pour objet de remonter dans la mémoire au niveau de connaissance où on comprend directement ce qui a été dit, au moment où ça a été dit. C'est-à-dire pour nous, il faut remonter plus de 3000 ans et entendre le prophète parler aux Hébreux. Et l'Hébreu qui entendait l'Hébreu des prophètes n'avait pas besoin qu'on lui explique le sens des mots, c'était sa langue. Je sais pas si c'est clair. Alors c'est nous qui venons bien après, qui nous trouvons un texte hermétique, à moins que on puisse remonter cette mémoire jusque au temps culturel où les mots avaient leur sens immédiat. Est-ce que c'est clair? Bon, ça c'est le commentaire traditionnel. Alors que l'exégèse, c'est tout à fait différent. L'exégèse, c'est à l'aide de dictionnaires, à l'aide d'encyclopédies, avec sa propre intelligence, un chercheur cherche qu'est-ce que le texte pourrait bien vouloir dire. Je ne sais pas si c'est clair, Jules. Oui, c'est une différence de nature. Et je voudrais être très très précis. Dans le monde contemporain, ces deux genres sont mélangés. Parce qu'il peut y avoir des passerelles entre l'une et l'autre. Vous avez des exégètes qui écoutent les rabbins parler, et puis qui se servent du contenu de la mémoire traditionnelle du commentaire pour en faire de l'exégèse. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Alors, est-ce que c'est clair? Je ne parle pas de choses trop difficiles. Quel est le résultat de la différence? C'est que, dans le cas de l'exégèse, le texte ne dit que ce que le lecteur est capable de comprendre avec sa propre tête. Si elle est grande, elle est grande. Si elle est petite, elle est petite. Des fois, par coïncidence, il dit la même chose que le rabbin peut dire. Ici, le rabbin, ça veut dire qui? Quoi? Ça veut dire le disciple, du disciple, du disciple, du disciple des prophètes. Celui qui est dépositaire de la mémoire traditionnelle qui remonte « Ish, mipi, ish, ad, moshe, mipi, agoura ». C'est très clair. C'est très différent. Alors, dans le monde culturel contemporain, il y a des passerelles entre ces deux. Vous avez des rabbins universitaires, des universitaires qui écoutent les rabbins, et puis ça se mélange. Mais il faut bien comprendre que c'est deux compréhensions du même texte de nature radicalement différente. Et des fois, il peut y avoir coïncidence, parce que toutes les coïncidences sont possibles. Est-ce que c'est clair, celui-là? Bon. Et alors, j'ajoute que ça nous éclaire. Pourquoi dans la tradition juive, on appelle ce texte le Mikra, ce qui est lu. Parce que c'est ce que le lecteur lit que le texte dit. Alors, on apprend à lire. Pour ceux qui connaissent les langues juives traditionnelles, tant en yiddish qu'en judéo-arabe, pour dire étudier, on dit lire. J'ai oublié comment ça se disait déjà en yiddish. Comment on dit prier en yiddish? Davnen. Oui, alors c'est l'autre, c'est l'Arnen. Et ça veut dire étymologiquement lire. Et en allemand ou yiddish? Oui. Et le premier mot, l'Arnen, ça veut dire quoi? Pas tout à la fois, je n'entends pas. Ça veut dire quoi?
Mais étudier
dans le sens de
la Torah.
Oui, mais cherchez bien. Écoutez, c'est un rabbin ashkenazi qui m'a appris ça. Bon, cherchez bien, vous voyez ce qu'il y a derrière. Il y a le sens de lire. Pas lire, épeler, exercice de lecture, mais savoir lire ce que le texte veut dire. Et ça s'appelle étudier dans les langues juives. Cherchez bien, vous me direz la prochaine fois. Et en judéo-arabe, comment on disait étudier? Oui. Et ça veut dire qu'en arabe? Ça y est, c'est clair? Bon. Non, voilà, j'en arrive à la formule suivante. Que pour expliquer le mot de Mikra, la lecture, c'est que finalement, le texte ne dit que ce que le lecteur lit. Alors, de deux choses l'une. Ou c'est quelqu'un qui sait ce que le texte dit et qui le lit, ça c'est la mémoire du commentaire traditionnel, ou c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui projette une opinion sur un texte à l'aide de dictionnaires, d'encyclopédies, tout ce que vous voulez.
C'est ce qu'on peut appeler la critique biblique alors?
Non, la critique biblique c'est encore pire. Ça c'est faire des mots croisés. Ça c'est faire des mots croisés avec la Bible. Mais. Mettre la Bible en croix. Tiens, j'avais jamais pensé. Attendez une minute. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Après, il y a le problème du chidouche. Mais je ne veux pas trop approfondir tout ça, ça nous fait... c'est trop large. Mais je vous ai dit, il y a des passerelles entre ces deux méthodes. Et mais quand on est familier, habitué par la tradition, on entend tout de suite s'il s'agit d'une formule qui vient d'une ou de l'autre méthode. Et vous avez entendu peut-être parler de cette expression à propos du ridou, justement, d'un renouvellement de sens, un renouvellement de formulation du sens. C'est que tout ce qu'un talmid vatik et mechadesh a été entendu par Moïse au Sinaï. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le sens de talmid vatik. Quelle est la différence entre talmid et talmid vatik? Je vous dis tout de suite, c'est pas quelqu'un du Vatican. Hein, le Vatican. Et, comment vous traduisez vatik? Pas chaud, pshat. Hein? Vatik. Ça peut vouloir dire ancien, mais ça veut dire surtout dans ce cas...
Expérimenté.
Expérimenté, mais de quelle expérience? Expérience de sagesse que donne l'âge vatik. Il est versé depuis longtemps dans ces choses-là. Talmid vatik, c'est un talmid qui est fidèle à cette chaîne traditionnelle qui consiste à dire, à transmettre de bouche à bouche et pas de bouche à oreille. Voilà, je vois encore une parenthèse. En français, on dit de bouche à oreille. Et c'est la garantie que tout va s'altérer, se modifier. Parce que la bouche de celui qui écoute va répéter ce que son oreille a écouté, pas ce que la bouche du maître a dit. Vous avez compris? Les psychologues savent qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a des choses qui sont dites et qu'on n'arrive pas à entendre. On les écoute, on n'arrive pas à entendre. Nous vivons d'ailleurs actuellement dans la société juive des choses de cet ordre. D'époque en époque, je me souviens d'un temps où les nazis disaient ce qu'ils voulaient faire des juifs, on ne voulait pas les entendre. Aujourd'hui, c'est ce que les arabes nous disent, mais on ne veut pas les entendre. Et encore ce matin, j'ai entendu à la radio un plaidoyer d'un ministre du gouvernement pour essayer de démontrer que noir c'est blanc et blanc c'est noir, puisque c'est un arabe qui le dit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Une complaisance. Et vous voyez, la nuance qu'il y a dans Shema Israël. Shema Israël, c'est pas simplement écoute, comme on traduit dans l'exégèse. C'est prends garde, Shema, fais attention, méfie-toi, c'est pas évident. Shema, ça veut dire entends ce qu'il y a là-dedans. On pourrait prendre d'ailleurs l'exemple de ce verset. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Que l'on croirait que ça va de soi, que c'est une évidence, mais on est tellement... exhorter à rester vigilant. Et c'est pourquoi il faut répéter cette phrase du Shemar à chaque moment où on change de monde. Le matin, le soir, en te couchant, en te levant, en chemin ou chez toi à la maison. Et quand on passe d'un monde à l'autre, c'est vraiment qu'on passe d'un monde à l'autre, tu vas dire Shema Israël, Hashem Echad. Parce que c'est pas évident. Shemar, ça veut dire prends garde en hébreu traditionnel. Bien. Et alors, je reviens au sujet. Cette introduction me paraissait absolument indispensable. Je n'ai pas fini encore d'expliquer ce que ça veut dire Talmid Vatik, mais je vais le faire pour le verset que nous allons étudier. C'est qu'il y a deux lignes de transmission du contenu du savoir, la mémoire que l'étude transforme en savoir, ou d'autre part ce qu'on appelle l'exégèse. Et alors, encore une fois, je le répète parce que c'est important de le savoir, il peut y avoir des passerelles entre les deux mondes. Mais ça ne peut s'enrichir réciproquement que si on a la lucidité de savoir qu'il y a une différence de nature. Je connais énormément de rabbins traditionnels qui, dans leur bibliothèque, ont des livres d'exégèse. Et je connais énormément d'universitaires qui, dans leur bibliothèque, bien cachés, ont des livres de commentaires rabbiniques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Et alors, transformer l'un dans l'autre, il faut une honnêteté intellectuelle pour savoir de quoi on parle vraiment. Et le fond du problème, c'est Torah min haShamayim. À travers l'exégèse, on n'arrivera jamais à Torah min haShamayim. Il n'y a que dans l'étude traditionnelle qu'on arrive à Torah min haShamayim. Je ne sais pas si c'est clair en hébreu. Je n'ai pas envie de traduire, ça me dit pourquoi on dit min haShamayim. Pourquoi Shamayim Dafka? Si on étudie les noms de Dieu, et on s'aperçoit dans la Masechet Shevuot par exemple on s'aperçoit que c'est interdit d'appeler Dieu le ciel. Ça, c'est les païens. Okay. Nous disons le Kenou Sheba Shamaim. Shamaim, ce n'est pas un des noms de Dieu. Ça, c'est chez les païens. Okay. Est-ce que c'est clair, je veux dire? Le ciel t'entende. Okay. Mais, et le Kenou Sheba Shamaim, ce n'est pas Shamaim. Ce serait aussi incongru de dire que Haaret, c'est un des noms de Dieu. Vous avez compris, je veux dire. Je vais une petite parenthèse sur les Gaulois. Vous avez entendu dire que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et alors, ça, c'est la Ligue républicaine de l'enseignement. Les instituteurs radico-socialistes. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le niveau de sagesse, qui parlaient des Gaulois comme des primitifs. En général, les modernes ont tendance à parler de leurs ancêtres comme des primitifs. Vous avez remarqué ça. Nous, nous avons une toute autre tradition. Nos ancêtres étaient des géants. Mais nous sommes les seuls à nous réclamer de géants qui étaient des esclaves. Dans tous les autres peuples, on descend de demi-dieux, de surhommes, de rois. Vous connaissez ça. Bon. Alors, je reviens au sujet. En réalité, ça j'ai étudié avec un de mes maîtres, les druides avaient une religion monothéiste, pas idolâtre, et ça veut dire qu'ils avaient Yirat Shamaim. Alors voilà comment les instituteurs traduisent ça, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Mais c'est Yirat Shamaim qu'ils avaient. J'ai pas traduit. Est-ce que c'est clair? Alors vous allez respecter nos ancêtres, les Gaulois. Je ne sais plus comment il s'appelait ce chanteur qui chantait ça. Oui, là, c'est un Martiniquais, celui-là, monsieur. Hein? Oui, oui, ça va. Nos ancêtres, les Gaulois. Bon, alors je reviens au sujet. Qu'est-ce que je devais vous expliquer? Oui, Talmid Vatik, Talmid et Talmid Vatik. Alors, je vais vous citer deux phrases de la Gemara qui est clair que ça veut dire un Talmid Vatik. Il y a aussi le terme de Mouvhak, pour ceux qui sont un peu plus érudits. Le Rav Mouvhak ou le Talmid Mouvhak. C'est intraduisible d'ailleurs, il faut entendre dans l'hébreu traditionnel. Il y a une première Gemara qui dit ceci. Talmid, She'en Tocho Kevaro, Alikanes le Bet Aminrash. Je traduis. Talmid, un disciple, un élève. She'en Tocho Kevaro, qui n'est pas dans son dedans comme de son dehors, qui n'est pas dedans comme dehors, Alikanes le Bet Aminrash, ne doit pas rentrer dans le Bet Aminrash. Et puis il y a une autre Gemara qui dit Talmid, She'en Tocho Kevaro, Eno Talmid Chacham. Alors je commence par la deuxième, ça éclaire la première. Talmid, She'en Tocho Kevaro, un élève qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne pense pas ce qu'il dit, qui n'est pas dans son monde intérieur comme dans sa parole extérieure. Vous rappelez qu'on a un peu parlé de ça la semaine dernière, okay, à propos du tzaddik, qui n'a pas de décalage entre Echad Bapé et Echad Balev. Alors on ne l'appelle pas Talmid Chacham. Voilà, cette expression de Talmid Chacham est très importante. Qu'est-ce qu'un Talmid Chacham? Ce n'est pas un exégète. C'est le disciple de quelqu'un qui est Chacham. Est-ce que c'est clair? Lisez bien en hébreu. Talmid, shel Chacham. Alors un Talmid qui n'est pas dedans comme dehors, ça veut dire que ce n'est pas un Talmid Chacham. C'est clair? Et puis, ce qu'il y a de très important, sauf une tradition chez les Sfaradim où le rabbin de la communauté l'appelait le Chacham. Chez les Sfaradim anciens espagnols. Ça reste, je suppose, chez les Turcs et dans ces communautés-là. Vous avez connu encore des communautés où on parle du haram. Okay, c'est clair, vous avez connu ça. Et même en Afrique du Nord, dans certaines communautés, on différenciait le haram des autres rabbins. Et je vais raconter une anecdote israélienne. Il y a un jour, un rabbin ashkenaz qui monte dans un autobus. Il y avait une seule place de libre à côté d'une femme. Il est resté debout. Et puis, il y a un rabbin sfarad qui montait. Il avait une place de libre, il s'est assis. Alors le chauffeur a arrêté le bus. Catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi l'autre, il s'est pas assis, toi, tu t'assois? Il dit, l'autre, c'est un rabbin, moi, je suis un chacham. Vous avez compris le sujet. Mais ça, on le vit tous les jours, ces choses-là. Et alors, ça m'a rappelé une autre anecdote que j'ai vécue. Quand j'allais étudier sur le Rav Kook, Il y avait très souvent des élèves de yeshivot anti-tout. Mais ça m'appelle une blague parce que vous savez que c'est la kula en hébreu. Alléger la loi. Alors ils accusaient le rafou de kuka kula. Je me rappelle de ça. Vous savez ce qui s'est passé entre les haredim et le rafou, c'est une arabe. Et le père et le fils d'ailleurs, mais eux c'était le Saint-Esprit. Et alors, quoi qu'il en soit, il venait souvent poser des questions provocatives pendant qu'elle étudiait. Le rave n'a jamais fermé sa porte à personne. Il répond avec beaucoup de patience. Et là, je me rappelle, il rentre en trombe. J'ai une chaise là. Bon, assieds-toi. Quelle est ta chaise là? Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir à côté d'une femme dans l'autobus? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, si ça te gêne, c'est interdit. En tout cas, je... Et d'ailleurs, c'est le principe de beaucoup de mitzvot. En tout cas, je reviens au sujet de quoi je parle. Ah oui, Talmid Chacham. Mais il y a une différence entre Talmid et Talmid Chacham. Alors, à ce moment, je vais vous dire que il y a eu le stade où il y avait les Chachamim, les Chachmi Israël. C'était les disciples directs des prophètes. Les Chachmi Israël, c'est un âge de la sagesse juive juste après la fin de la prophétie. Les Chachamim, Hazal, Razal, vous connaissez le sens de ces mots? Hazal, où les j'ai fait le tableau? Je vais voir s'il y a des trucs. Oui. Voilà, Hazal, c'est Chachmenu, Zichronam, Yivraha. Et Razal, c'est Ravotenu, Zichronam, Yivraha. Alors, il y a le stade, vous avez entendu ces mots-là, Razal, Hazal. Okay. Et. Mais c'est un temps qui est parti. Hazal. En hébreu. En tout cas, pour revenir au sujet, très vite, on a parlé des Talmidei Chachamim. Les rabbins n'avaient pas l'orgueil, c'est pas l'orgueil, mais vous trouvez le mot vous-même, de se dire je suis un sage, je suis un disciple de sage. C'est plus important que de se dire moi je suis intelligent, je suis l'élève d'un Chacham. C'est une garantie. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors c'est ça, la deuxième, moi je vous citais que c'est la première qu'il faut comprendre, c'est que Talmid, Sheno, Toch, Eno, En, Toch, Okebao, Eno, Talmid, Chacham. D'après le contexte de l'autre citation de la Gemara, on comprend qu'est-ce que c'est un Talmid qui n'est pas Toch, Okebao. C'est celui qui fait semblant d'être d'accord avec son maître, en dehors, mais en dedans il n'est pas d'accord. Des Talmidim comme ça, les maîtres les diagnostiquaient avec ce qu'il y a sur leur figure. Ils ne laissaient pas rentrer dans le Bédamidage. C'est pire que la pilorose. Parce que ça veut dire mettre en question la chaîne de la transmission de la Torah depuis l'origine qui est révélée. Et on est en pleine contradiction. On parle d'une Torah révélée comme si elle n'était pas révélée. Est-ce que c'est clair? C'est des choses graves dont je vous parle. Okay. Parce qu'il s'est passé tellement de temps depuis la fin de la prophétie qu'on ne se rend pas compte de cette différence de nature. Mais dans les milieux traditionnels, on diagnostique tout de suite à la manière de parler, de poser la question d'un élève, s'il est dans ce cas ou pas. Méfiez-vous de ça. Enfin, non, c'est pas méfiez-vous. Prenez conscience de ça. Et alors, effectivement, il y a dans ce contexte-là, vous voyez dans la Gemara de Brachot, que... on raconte que lorsqu'on a pris la décision que les Talmidim qui étaient dans ce cas, celui qui n'est pas Torokeva, on ne rentre pas dans le Beit HaMidrash était vide. On avait mis un portier à la porte, raconte la Gemara, qui disait, toi rentre, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. Alors on s'est rendu compte que le Beit HaMidrash était vide, et alors on a suspendu l'interdiction. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans le Beit HaMidrash, il y a tout le monde, celui qui veut, Kolava Baruch Haba. Et seulement ça trompe personne. Et c'était au temps de Rabban Gamliel que la décision a été prise. Et voilà ce que je voulais vous citer pour éclairer un peu, mais ce n'est pas vraiment le sujet dans lequel on va rentrer, cette différence de nature. Or, cette explication du commentaire traditionnel, je cherche mon mot en français parce que ça ne correspond pas toujours au mot hébreu, s'appelle en hébreu le biur. Le biur et baer. Biur, bet, yud, Vav, Resh, Bir. Il y a un Aleph dedans. Bet, Bi, Bet, Yud, Aleph, Vav, Resh. Regardez, le paradoxe, c'est que le commentaire du premier enseignant qui a mis en doute la révélation de la Torah, Mendelssohn, il a appelé son commentaire le Biur. Bon, c'est un point d'érudition, mais je referme la... Vous avez entendu parler de Mendelssohn. C'est un grand savant. Mais savant, c'est autre chose. Et d'ailleurs, ses propres enfants se sont convertis au christianisme. Ça, vous savez aussi. Bon, c'est le commencement de la grande Hidarderut, comment on traduit ça, Hidarderut, dégringolade de la tradition dans le judaïsme européen. Disons, deux civilisations germaniques. Ça s'est passé en Autriche, mais c'est deux civilisations germaniques. Bon. Alors, ça s'appelle les Baers. Vous voyez pourquoi il est nécessaire d'expliquer les Baers. Je voulais une petite parenthèse, mais oubliée, parce que ça fait trop lacanien, laconien, en tout cas, disent les Ashkenaz. c'est que il faudrait dire commentaire en deux mots. Commentaire. Et très souvent, d'ailleurs, le commentaire, c'est pour nous faire penser à autre chose et nous empêcher de mal lire. Si on voulait lire littéralement, on lirait mal. Alors le commentaire nous permet de taire. Voilà, vous avez compris.
De taire le comment.
Oui, de taire le comment. Très bien, j'achète. Donc, alors on apprend, dès le début du récit de la paracha de Devarim, que Moïse a dû expliquer la Torah. Pendant les quatre premiers livres, il a dit la Torah. Dans le cinquième, il a expliqué la Torah. Voilà la différence entre, je reviens au début de ce que je disais, le Yad, voyez, les quatre livres et le cinquième. Mais c'est le cinquième qui donne un sens aux quatre. Bon, il y a beaucoup de symbolique là-dedans, enlevez le mot symbolique, mais pourquoi j'ai remarqué une chose. Je cherche dans ma mémoire, non, je n'ai pas de source à ça. Vous savez, j'ai l'habitude de vous indiquer. Si je vous dis quelque chose où je n'ai pas un texte écrit, je vous le signale. Alors, signalez-le, ne mélangez pas ce que je vous dis en disant, c'est une remarque que je fais, et ce que j'enseigne en général, il y a toujours un texte derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, je le précise pour pas qu'il y ait de malentendu. Et alors, c'est que Maïmonide a écrit une somme extraordinairement importante pour nous. Avant Maïmonide et après Maïmonide, l'étude de la Torah, c'est pas la même chose. Avant Maïmonide, c'était un monde où on n'avait pas besoin de Maïmonide, il n'était pas encore là. Mais après Maïmonide, on ne peut pas étudier la Torah sans Maïmonide. Il y en a beaucoup comme ça, en particulier Rashi. Et Maïmonide dans un autre secteur. Eh bien, il a intitulé sa somme Yad HaChazaka. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire Yad HaChazaka. C'est pris d'une expression de la Bible, Yad HaChazaka, la main forte. Yad HaChazaka. Mais la Chazaka en hébreu, c'est la présomption. En hébreu moderne, ce sens est connu. Chazaka que. Il y a une présomption que. Yesh chazaka al. Par exemple, on parle d'un droit acquis. La catégorie m'échappe en français. Un droit acquis par consensus. Je vous donne un exemple. Dans les lois de l'hospitalité, si on a invité deux fois quelqu'un, il a le droit de venir quand il veut à partir de la troisième fois. C'est lui qui s'invite. Il a une chazaka. Si vous donnez deux fois une aumône à quelqu'un, et il a acquis le droit de vous réclamer ça chaque année. Il faut savoir ça, c'est la chazaka. Okay? Est-ce que c'est clair? C'est pas qu'on lui fait une Torah, c'est son droit. C'est un devoir qu'on a vis-à-vis de lui. On sait ce qu'on fait en donnant deux fois la même charité à quelqu'un, la troisième fois c'est à lui. Vous avez compris ce que je dis? Bon, vous connaissez l'histoire de Rothschild à ce sujet. Okay? C'était un Rothschild avait comme ça un mendiant personnel qui venait chaque année recevoir sa dot. Et puis un jour, il voit le frère du mendiant arriver. Alors il lui réclame la même chose. Il dit, mais c'est à ton frère, je n'ai pas à toi. Il dit, qu'est-ce qui hérite? Qu'est-ce qui hérite? Le frère a hérité de la chazaka, par Rothschild. Alors oui, c'est... Et quand on a une question nouvelle qui se pose et qu'il y a différentes façons possibles, toutes vraies, de la résoudre, alors il y a une dimension de Shikul Da'at Chazaka que c'est plutôt ça que ça. C'est un mystère, hein? Une intuition que parmi différentes manières vraies de rendre compte d'une question qui s'est posée, c'est cette manière-là et pas une autre qu'il faut dans ces circonstances-là. C'est la chazaka. Est-ce que c'est clair? Ça nous explique un peu la dialectique du Talmud. Lorsque le maître pose une question, et nous avons autant de réponses que d'élèves présents, et finalement, le maître dit « la halakha est comme celui-là ». Alors que toutes les autres opinions se défendent. Et pourquoi on a choisi celle-là? Et quel est ce principe d'autorité? Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas arbitraire, c'est la chazaka. C'est-à-dire, le maître peut tenir compte de la nature, de la génération dans laquelle la question se pose. Je vais essayer d'éclairer ça un peu plus parce que je m'entends que ce n'est pas suffisamment clair. Voilà, par exemple, lorsque le maître dit, on a cité l'opinion de X rabbin, Rabbi Intel a dit, et le maître de la génération se lève et dit la halakha comme Rabbi Akiva. Mais pour une autre, et on a des règles, dans tel genre de décision, la halakha est plutôt comme Rabba, plutôt comme Shmuel, plutôt comme Rab, plutôt comme Rabbi. On connaît tout ça, on sait les niveaux. Dans tel ou tel genre de problème, on suit plutôt ce Rab que ce Rab, parce qu'on sait que ce Rab a été le maître de celui-là, et on ne prend pas l'élève à la place du maître. Il y a des règles comme ça. Mais quoi qu'il en soit, toutes les opinions qu'il y a dans le Talmud sont vraies. Et ça, c'est pas du tout contradictoire. Alors quand, par exemple, le maître a dit « Halakha kerabi akiva », ça veut dire « pour ce problème, on décide comme Rabbi Akiva », parce que pour ce problème de notre temps, les Juifs sont comme Rabbi Akiva. Est-ce que c'est clair? Si c'était comme Rabbi Ishmael, la halakha serait comme Rabbi Ishmael. Il faut dire à toi, Shabbat Loupé, suivant le... Je me raccroche à la fin de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Vous vous rappelez, Rachel Amatot, pourquoi le problème de l'annulation des vœux est confié au chef de tribu? Vous vous rappelez de la question? Parce que il faut savoir qui est en question. Pour telle manière d'être juif, il y avait 12 tribus. Ça veut dire 12 manières différentes d'être Israël. Et dans chaque tribu, il y avait différentes familles. Alors il y avait les tribunaux qui correspondaient à chacune des entités collectives. On ne fait pas... Je vais vous donner une analogie. C'est pas Allah Khalema Assez, je vous dis là, hein. C'est pas le dîne. On ne juge pas un juge de Bercheva comme on jugerait un juge de Hedera. Ils n'ont pas le même ofi. On ne peut pas traduire caractère, tempérament, c'est plus profond que ça. Ils n'ont pas le même profil. Non, ne traduisez pas. Non, c'est trop. Tout ça c'est vrai, mais c'est partiel, tout ce que vous dites là. C'est quelque chose beaucoup plus global. Chacun est ce qu'il est, et il est génialement irréductible à quelqu'un d'autre. On ne juge pas un juge de la tribu de Reuven comme on juge un juge de la tribu de Zboulon. On ne fait pas décider pour un juif du Yémen par un rabbin des Carpates. Et on ne fait pas décider pour un juif des Carpates par un rabbin du Yémen. Parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. J'ai compris l'idée. Et c'est un problème difficile dans la société juive contemporaine parce que tout ceci s'unifie actuellement. Et alors, cette unification est un problème très difficile. Et est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Alors, c'est pourquoi il y avait dans les tribunaux la nécessité soit d'avoir 3 juges pour pouvoir décider de l'annulation des vœux, soit un seul juge à condition qu'il soit mumché. Mumché, vous comprenez ce que ça veut dire dans le monde juridique, c'est-à-dire qu'il soit spécialiste, un peu plat, compétent. Okay? Alors, de quelle compétence il s'agit? On va l'apprendre du fait que cette mitzvah, cette loi est confiée au chef de tribu. Compétent, chaque chef de tribu connaît ses propres... comment on dit avec tribu? Tribun. Non, je ne sais pas. C'est pas ça. Ses propres tribunaux.
C'est bon.
Les membres, il a fait. Bon. Voilà le sens. Et effectivement, il y a une identification qui permet de savoir que en ce temps, pour ce genre de juif, la halakha est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'en un autre temps, pour un autre genre de juif, la halakha serait autrement. Ces choses-là sont prévues dans la Gemara. On n'invente pas une Gemara. Dans la Gemara, il y a toutes les opinions dont on a nécessité dans la suite des temps. Vous avez compris le problème. Bon. Et je ferme la parenthèse. Je voulais signaler tout cela pour indiquer la nécessité du biour. Vous voyez que l'explication par le biour, c'est pas une exégèse. Okay? Déjà, à la génération suivante, Moïse doit expliquer ce que signifie la Torah qui a été révélée à la génération précédente. Je le dirai en schématisant un peu, dès que les fils vont remplacer les pères, il faut expliquer aux fils la Torah des pères. Et on ne peut pas s'adresser aux fils comme on s'est adressé aux pères. Il y a le temps des pères et le temps des fils. Surtout dans des générations où on change d'époque. Alors dans l'époque précédente, eh bien, toutes les générations, c'était à l'indice père. Alors ça se transmettait facilement de père en père. Mais dès qu'il faut le transmettre de père en fils, là, le biour est nécessaire. Pourquoi ? Dans quelles circonstances une tradition s'arrête ? C'est quand on ne sait plus expliquer aux fils ce que les pères savaient. Lorsque les pères ne parlent plus avec les fils. Et lorsque les maîtres ne savent pas parler aux fils de ce que les pères savent. Est-ce que c'est clair, je veux dire ? Moi, j'ai vécu ce temps-là en Afrique du Nord. Et beaucoup d'entre vous, je suppose, ont connu ce temps-là encore. C'est le temps où il fallait passer d'une civilisation juive qui était judéo-arabe de style Moyen-Âge à une civilisation européenne de style XXe siècle. Et d'ailleurs, les rabbins de la génération précédente qui ont fait le passage, pour moi, c'est un mystère. Comment ils ont fait, j'en sais rien. C'est vraiment mystérieux, ça nous dépasse. Il y a quelques familles dans toute l'Afrique du Nord où c'est passé comme ça. Les parents avaient étudié en arabe et ils ont enseigné à leur fils en français. Où ils ont appris à faire ça ? C'est mystérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment mystérieux. Alors, il y a des familles où c'est passé et des familles où c'est pas passé. Et dans les familles où c'est pas passé, la tradition s'est arrêtée. Vous avez remarqué ça. Et bon, je vous donne l'exemple d'Afrique du Nord parce que je l'ai vécu, mais dans toutes les évolutions culturelles des différents ghettos, ça s'est passé partout comme ça. Alors c'est assez mystérieux. Pourquoi ça passe dans telle famille, ça passe pas dans une autre ? Alors je crois que là, on a un élément d'explication. C'est là où on sait expliquer. Là où il y a le biour, ça passe. S'il n'y a pas le biour, ça passe pas. Voyez ce qui se passe. Le cinquième livre, déjà, qui est le livre pour les fils, Moïse doit expliquer. Alors, vous voyez la différence entre ce qui se passe dans le Yad. Pourquoi j'ai fait allusion à Yad HaChazaka. Alors ça, c'est un chidouche, si vous voulez, mais chidouche, ça veut dire que je n'ai pas de source à vous citer. C'est que très probablement, Maïmonide a pensé au Yad de la lecture de la Torah pour appeler son livre Yad HaChazaka. Ça y est, c'est clair ? Donc, je vais compléter par une autre Gemara sur ce problème. Ça, c'est dans Sanhedrin. Je vous ouvre une parenthèse parce que ça vaut la peine de se rappeler de cet enseignement-là. C'est la reine Cléopâtre qui interroge les Hachamim de son temps. C'est que les Hachamim, du temps de la reine Cléopâtre, étaient très évolués et parlaient à Cléopâtre. Imaginez aujourd'hui. Non, Cléopâtre. Ils avaient le nez de fou. Alors, elle demande, c'est dans le 11e chapitre de Sanhedrin, nous savons que les morts ressuscitent. Il y a tous des enseignements précédents qui enseignent cela, d'où on sait que les morts vont ressusciter. Maintenant, nous savons que les morts ressuscitent. Mais est-ce qu'ils vont ressusciter nus ou habillés ? Et j'ai entendu d'ailleurs des gens très sérieux dire, vous voyez, c'est une femme, elle a des préoccupations de mode d'habillement. C'est un peu macabre, funèbre, enfin, comment dire. Et évidemment, c'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? D'après ce que nous avons vu, ça, c'est clair. Ça veut dire... Et alors, la Gemara répond.